se m'approcher, vous voir un peu. Je suis vraiment content de vous voir, vraiment, vraiment content de vous voir. Ça fait 15, je suis parti à l'âge de 15 ans, j'ai 29 ans. Je suis passé près de la moitié de ma vie ici. Vous avez une très grande influence dans ma vie, puis je remercie le Seigneur pour ça. Je suis vraiment content d'être ici. J'ai vu plein de monde. J'ai vu Lise Moret. Je me suis fait garder chez elle quand j'avais probablement quelque chose comme 8 ans. Je m'en souviens comme si c'était hier. Ce matin, j'ai deux mandats en fait. J'ai un mandat d'exposer la parole. On va tourner dans Marc 9. Ça devrait prendre la moitié du temps et puis l'autre moitié sera consacrée à vous présenter le travail que Dieu fait à la Villa du Carmel. Donc, dans Marc 9, au verset 14, il est question du jeune garçon qui était épileptique ou possédé d'un démon qui a été guéri par Jésus. Et puis, juste avant de lire, je vais vous mettre un petit peu en contexte. Pierre, Jacques puis Jean, ils reviennent du mont de la Transfiguration, où ils ont été avec Jésus, où Jésus a été transfiguré. Et puis, ils ont vu venir le royaume de Dieu avec puissance. C'était vraiment extraordinaire pour eux. Ils étaient même prêts à accueillir Jésus. Ils ont dit, on va monter 3 tentes, et puis des tabernacles pour ceux qui étaient là. Puis ils ont dit, tu peux régner, là, vas-y. Je paraphrase, mais en fait, c'est ça qui était le cas. Eux autres, ils ont vu Jésus dans sa gloire. Ils ont dit, ben OK, vas-y, on est prêts. Ce serait bon pour nous. C'est ça que le texte dit. Mais Jésus a dit, non, je dois mourir avant. Donc, ils ont ramené un petit peu sur terre. Mais par la suite, ils ont encore descendu, ils ont redescendu un peu plus bas sur terre, ils sont allés en bas de la montagne, et puis c'est là qu'arrive dans notre texte, dans Marc 9, au chapitre 9, verset 14. Et puis, je vous lis vraiment toute l'histoire, je pense que c'est important d'aller au complet, jusqu'au verset 29 pour bien comprendre. Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux? » Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils, qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, et l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Génération incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. On le lui amena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? » « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant courir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et se tint debout. Et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » J'ai pris ce texte parce que au moment où j'ai su que je viendrais vous parler ici, j'étais en train d'étudier ce texte. C'est un texte que j'avais des questions. Premièrement, sachez que ma femme elle-même est épileptique, Andréane. Elle fait des crises d'épilepsie. Probablement que certains de vous l'ont déjà ont déjà assisté à ça. Et comme le garçon épileptique est tombé partout. Elle est tombée à l'école, au travail, elle est tombée. On a un appartement quand on est au cégep. Et puis, tu sais, un appartement, une chambre de bain tellement petite que la porte frôle le lavabo, elle frôle la toilette, puis elle frôle pratiquement le bain. Donc, elle est là, en train de se maquiller devant le miroir, et puis là, elle fait une crise, et puis elle tombe la face derrière la toilette. OK? Aujourd'hui, on est capable d'en rire. Mais à ce moment-là, c'est pas drôle. Ces choses-là, c'est arrivé plusieurs fois, même tombée... les gens, je sais pas, ils aiment pas ça quand je ris de ça, mais elle perd connaissance, elle fait une crise d'épilepsie, mais pour se retenir, elle prend la porte du poêle. Tu sais, elle passe devant le poêle, elle prend la porte du poêle, puis elle se l'envoie d'en face. Ouch. OK, on imagine le jeune épileptique qui a été envoyé par le démon dans le feu. Il l'a envoyé dans l'eau. Et puis, c'était pas pour l'éteindre du feu, c'était encore pour le tuer. Pour ceux qui peut-être qui savent pas l'épilepsie, disons pour prendre un exemple, le langage de automobile, c'est comme quand toutes les fils se touchent, c'est nerveux. Quand toutes les fils se touchent, le klaxon part, la radio dans le fond, le chauffage, les flashers, les lumières, tout part en même temps, puis la batterie se vide, et puis ensuite de ça, c'est terminé. C'est pour cette raison-là là, qu'on peut comprendre qu'ils ont cru qu'il était mort. Les gens, quand moi je vois une crise d'épilepsie, ça me fait, c'est pas angoissant pour moi, c'est vraiment désolant. Je suis vraiment désolé pour ma femme quand ça arrive. Mais c'est comme si elle venait de courir un marathon. Et puis là, elle arrive, elle est tout simplement épuisée. Elle ne peut plus parler au point où on a vraiment des signes pour me dire, elle va bouger ses mains après quelques minutes. Parce qu'avant ça, elle n'est juste pas capable non seulement de parler, mais de réfléchir. Donc, il y a vraiment la batterie à terre, donc c'est ça qui se passe. Dans notre texte ici, c'est une question que j'avais quand j'ai tombé sur le texte, je me suis dit, ils n'ont pas compris, c'est pas une possession démoniaque, c'est parce que c'est pas dans Marc 9, c'est pas écrit que c'est de l'épilepsie. J'ai dit, c'est pas une possession démoniaque, c'est juste de l'épilepsie. Et puis, c'est une question comme ça que j'avais, puis en étudiant le texte, c'est vraiment de l'épilepsie et c'est vraiment une possession démoniaque. On peut le voir, si on va voir le passage parallèle dans Matthieu 17, 15, on n'est pas obligé de tourner. Le mot épileptique est vraiment écrit dans beaucoup de nos traductions. Sinon, c'est écrit lunatique, et puis ça viendrait du terme « moonstruck », qui voudrait dire envoûté par la lune ou qui aurait été frappé d'une force. Et puis ça va évoquer le sens de la force qui possède l'enfant, celle du démon. Et puis en même temps, on pourrait aussi bien traduire par épileptique. Donc, c'est vraiment le cas. Dans ce cas-là, c'est de l'épilepsie qui était causée par le démon pour le blesser, pour le tuer. Première chose qui m'a frappé dans le texte, Satan, où on le sait déjà, on sait tous que Satan a une influence sur nous. Il a une influence sur nos pensées et sur nos corps. Encore aujourd'hui, c'est vrai, là, c'est pas juste dans ce temps-là, on a des messages constamment du malin qui vient nous influencer dans nos corps, dans nos esprits, la radio, la TV. En fait, Satan enseigne pratiquement mieux ses lois les lois individuelles, la Charte des droits et libertés a beaucoup plus d'importance que les 10 commandements, on s'entend tous là-dessus aujourd'hui. Les images partout nous disent que, puis c'est subtil, les images dans le monde nous disent que le plus important dans le monde, c'est notre bonheur à nous. C'est pas ce que Dieu enseigne. Il nous enseigne tellement ça que c'est nous qui est important pour être certain qu'on oublie Dieu. Puis qu'on dise, c'est correct, j'ai tout ce que j'avais besoin. Je suis satisfait. Dieu, quoi? Y avait-il un Dieu? Il n'y a personne qui m'en a parlé. J'ai tout ce qu'il me faut. D'ailleurs, je trouvais ça drôle. J'écoutais, j'ai trouvé ça à la télévision pendant les séries de l'année passée ou l'année d'avant. Une grosse pancarte, quelqu'un qui lève une pancarte, là, 3 pieds par 3 pieds, et dit, c'était écrit « Canada believes in Canucks ». Le Canada croit aux Canucks. J'ai trouvé ça drôle. Il tourne la caméra, une banderole d'une trentaine de pieds accrochée en haut de l'auditorium qui dit « This is what we live for. » C'est notre raison de vivre. 30 pieds de haut dans le... C'est quoi? Satan, il fait de la publicité pendant le hockey des séries? C'est quoi? J'ai manqué un bout, là. Il s'attaque vraiment. Il va chercher nos pensées pour qu'on sache que Dieu n'est pas le plus important dans le monde. Il travaille très, très fort. Il travaille à la radio. C'est quoi qu'il va falloir qu'on fasse, nous? Va-t-il falloir qu'on crée des pancartes comme ça pour m'accrocher sur l'école? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. On va écrire ça. On va faire des banderoles de 30 pieds. Qu'est-ce qu'on va faire? Satan a une influence énorme sur nos pensées et sur nos corps. C'est ça que le texte nous dit. Le démon s'attaque, et c'est ce qui est le plus frappant là-dedans, il s'attaque à des enfants. Pas des ados. Dans le texte au verset 21, Jésus demanda au Père, depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance. Et puis, on pourrait traduire aussi par sa jeune enfance. C'était un jeune enfant. On s'attendrait à ce que on ait des attaques de Satan plus tard, peut-être à l'adolescence, là où on va peut-être chercher plus Dieu, là on comprend les choses, là il va s'attaquer à nous, puis on va avoir des choix à faire. C'est pas le cas. Satan s'attaque à des enfants qui ont même pas le pouvoir de résister. C'est ça dans le texte. En passant, dans parenthèse, dans nos groupes de jeunes, on fait un peu comme si Satan ne s'attaquait pas aux enfants. On les prend puis on les garde pendant plusieurs années où on leur fait des activités, on ne leur parle pas trop de théologie, on les engage pas trop. Puis plus tard, là, ils arrivent à l'adolescence. Là, on ferme les yeux. Puis là, on attend que l'adolescence passe. Puis fou, là, ils arrivent dans l'église. Puis là, on leur demande d'être des chrétiens, des enfants de Dieu. On lui demande de chercher à connaître Dieu, de lire la parole, d'apprendre la théologie, puis surtout le service en tant que membre dans le corps de l'Église, parce que là, on lui dit, t'es membre dans le corps de Christ. Ce serait pas peut-être bon pour les enfants de pratiquer le fait d'être enfant de Dieu quand ils sont enfants? Parce que Satan, lui, ça fait longtemps qu'il s'occupe d'eux. Ça fait longtemps qu'il enseigne ses doctrines. Très clairement, à longueur de journée. Il exige même qu'on le serve, même enfin. Il veut les détruire avant même qu'ils puissent résister. Je vous lis, le 9 avril 2013, un étudiant de 20 ans a blessé 14 personnes dans une attaque au couteau sur un campus de Houston au Texas. Vous avez peut-être pris ça aux nouvelles, c'est le 9 avril, c'est quand même récemment. Je vous lis les articles de TVA et de CNN. Selon le bureau du shérif du comté de Harris, Dylan Quick a commencé son assaut vers 11h20 mardi à l'université de Lone Star, dans la ville de Cypress, armé d'un couteau à lame escamotable, un exacto. D'après le bureau du shérif, Dylan Quick a confié aux policiers qu'il planifiait son assaut depuis un moment. Et qu'il rêvait de poignarder des gens depuis l'école primaire. C'était aux nouvelles le 9 avril. Satan s'attaque à des enfants avant même qu'ils puissent résister. Puis c'est tellement clair qu'un étudiant, probablement incroyant, à CNN a dit, il n'y a aucune humanité là-dedans. Juste de voir un autre être humain faire ça, c'était vraiment traumatisant. C'est clair que ça ne vient pas de Dieu, ça. Puis c'est arrivé à un enfant, pas à un enfant de 20 ans, à un enfant à l'école primaire. J'ai entendu à la radio dans les dernières semaines qu'il y avait environ 22 000 avocats du droit de la famille au Québec. Pas au Canada, au Québec. J'ai pas vérifié les sources, mais c'est ce que j'ai compris. 22 000 avocats qui s'occupent juste des problèmes qui sont causés dans les familles pendant que les enfants sont des enfants. On dit que le plus grand péché de l'homme, c'est son orgueil. L'homme s'aime lui-même plus que Dieu. C'est là que ça commence. Puis si on écoute les discours des couples modernes, c'est un ami à moi au cégep qui disait ça là, le plus sérieusement du monde. Moi, si ça ne fait plus mon affaire, ma femme elle sait que je vais aller ailleurs, puis c'est réciproque. Parce que le bien personnel passe au-devant de Dieu, évidemment. Ensuite, il passe au-devant de sa femme, puis même au-devant de ses enfants. Est-ce que la parole, elle enseigne pas l'inverse, non? Elle enseigne que c'est Dieu qui devrait être en premier, ensuite ma femme, ensuite mes enfants, Ensuite, puis quand je vais voir Dieu, puis je dis là, je peux-tu embarquer dans la file? Il dit non, toi, retourne en arrière de la file, t'es le dernier dans la file. On a tellement reçu l'enseignement du malin qui nous dit l'inverse qu'on le croit. C'est rendu, tu sais, je me suis dit, il va être gêné de nous dire ça, là, qu'il s'en va, puis il va laisser sa femme, ses enfants, sans aucun problème. Mais non, il était fier de nous dire que le bien de lui-même était plus important que tout le reste. Ça vous décourage pas, ça, un peu? Qu'est-ce qu'on fait? On en fait des pancartes de 30 pieds. On va dire que Dieu est la chose la plus importante, qu'il faut aimer le Seigneur de tout notre cœur. On fait-tu des comités pour trouver des solutions? Je sais, on fait un diagramme de solution de problème. Puis, on trouve des solutions. Quand le malin s'acharne de façon déloyale sur des enfants et sur notre société, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans notre texte, les apôtres eux-mêmes étaient désespérés parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Ils avaient essayé de chasser le démon, puis ils n'avaient pas réussi. Je vous invite à aller le verset 22. Verset 22, chapitre 9 toujours. « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Puis plus tard, au verset 28, « Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Comment ça se fait qu'on ne l'a pas pu le faire? » Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Certains manuscrits disent aussi le jeûne, la prière et le jeûne. Peut-être l'ajout d'un scribe plus tard qui croyait que c'était justifié parce que le mot jeûne était là dans les autres passages parallèles. Mais de toute façon, ça n'enlève rien. En fait, ça rajoute. Ça rajoute le fait que c'est la prière, mais la prière intense, la prière consacrée à Dieu. Et puis quand on jeûne, on oublie notre propre personne. Et c'est pas ça qu'on a besoin le plus quand on prie, de premièrement s'abandonner nous-mêmes, et puis de se concentrer vers Dieu, et puis de lui dire que c'est lui qui peut tout. Au lieu de faire notre comité, puis d'essayer de créer notre pancarte, puis de chercher les solutions, on doit se tourner vers Dieu et puis prier sincèrement pour que Dieu sauve. En plus, si vous croyez à la puissance de Dieu, mais que vous n'êtes pas sûr que votre demande soit suffisante, vous pouvez prier pour avoir la foi. C'est tellement beau ce verset-là. Viens au secours, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Tu ne viens pas te dire que tu crois? Ça peut être notre quoi aussi, ça peut être notre quoi. On peut croire, mais penser que ce ne sera pas suffisant. Mais Dieu a même le pouvoir de venir sauver ceux qui demandent d'avoir la foi. C'est ça la solution, même devant un ange déchu, devant un puissant ange déchu qui vient contrôler un enfant comme dans notre histoire. Dieu, par la prière, peut faire sortir cet ange-là. Deux choses à retenir. Il y a premièrement la réalité et la gravité de la possession. C'est très réel dans notre histoire que le petit garçon, pour lui, c'était absolument réel qu'il était possédé. C'était absolument réel que c'était très grave et désastreux. C'est quand tu te fais lancer dans le feu, tu comprends que c'est assez réel. OK. Aujourd'hui, c'est encore la même chose. On a lu l'histoire de Dylan Quick. Et voulez-vous qu'on s'assoie puis qu'on regarde CNN pendant toute l'avant-midi? Et c'est réel aujourd'hui. Et puis, Satan a encore aussi une influence sur nos pensées. Pensez seulement au fait qu'on va faire 20 minutes de message ici. Vous retournez pendant 30 minutes, c'est mon cas, je me retourne pendant 30 minutes en auto. Satan va déjà avoir eu plus de tribunes que Dieu, puis je ne serai même pas rendu chez nous. Si c'est une situation désespérée, on a juste à se tourner vers lui. C'est face à cette réalité, puis à cette gravité-là de la possession, la seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment de se tourner vers Dieu puis prier. Puis, deuxième chose à retenir, Dieu est assez puissant pour libérer tous ceux qui croient, même ceux qui ont besoin d'aide pour croire. À ce point-ci, j'aimerais juste prier pour justement demander à Dieu qui nous aide à comprendre ça. Prions. Grand Dieu puissant, compatissant, tu sais à quoi on a à faire face. Tu es patient, puis tu peux tout. On le sait ça, Seigneur, mais on te demande de nous aider à le réaliser, à le comprendre vraiment. On a probablement besoin de foi, évidemment qu'on a besoin de plus de foi. Puis c'est pas désespéré, ça dépend pas de nous, ça, cette foi-là. Tu peux nous la donner toi-même. Seigneur, je te demande que ceux aujourd'hui qui ont besoin de plus de foi pour progresser, pour pouvoir croire que tu mérites de régner, que tu es plus important que moi-même. Si j'ai de la misère à croire ça, Seigneur, aide-moi. Donne-moi la foi dont j'ai besoin. Seigneur, je te demande que devant les attaques du malin, j'ose te demander de les faire fuir. J'ose te demander de les faire débarrasser de nos écoles, de notre TV, de notre radio. Je ne sais pas comment tu vas faire ça, mais c'est pour ça que je te le demande à toi, parce que je ne le demande pas à moi. Seigneur, je te prie pour nos églises, que tu les protèges des attaques. Je te prie pour nos ministères, comme celui de la villa, que tu puisses se protéger. C'est tous des bénévoles qui travaillent là. Ça tient absolument à rien si ce n'est pas de toi. Puis Seigneur, avant tout, je veux te prier pour nos enfants, que tu puisses, c'est les enfants qui sont alentour de nous, que tu puisses les protéger contre les attaques du mal. Amen. Tu peux me partager.